Aujourd'hui, c'est Saint-Pierre et Saint-Paul, les piliers de l'Église, les saints sans lesquels, je crois, le christianisme aurait eu beaucoup de peine à se répandre comme il s'est répandu dès le premier siècle. Je m'inspire pour Saint-Pierre et Saint-Paul aujourd'hui des saints des quatre saisons par Monsieur de Langle de Carry, paru en 1959. Et en ce jour, je tiens à signaler que le successeur de Pierre, notre pape Jean-Paul II, dont c'est la fête dans le sens que son nom est Paul, n'est-ce pas, et c'est la fête aussi de Saint-Paul aujourd'hui, eh bien, le pape rencontre aujourd'hui le grand patriarche Bartholoméos Ier de Constantinople, patriarche des églises orthodoxes, patriarche de la grande orthodoxie, cette grande église qui est le parallèle de la grande église catholique de Rome. Et nous pouvons espérer, au cours de cette émission, que les nouvelles qui sortiront de cette rencontre nous annonceront des pas, de grands pas, faits vers l'unité de nos deux églises, que j'aime, et j'aime beaucoup l'église orthodoxe, et j'aime beaucoup la liturgie byzantine que je connais bien. J'y vais depuis l'âge de 12-13 ans, en allant à la paroisse Saint-Sauveur, chez les catholiques de rite byzantin, que sont ces Arabes, Libanais, surtout Égyptiens, qui célèbrent là la messe à l'église Saint-Sauveur sur la rue Saint-Denis, près de la Gauchetière, depuis tellement d'années, n'est-ce pas? J'ai connu les curés successifs et j'ai toujours aimé aller à la messe là. Je me souviens d'avoir amené mon fils et lui demander en sortant, « Tu n'as pas trouvé ça trop long? » Et mon fils m'avait dit, « Mais pas du tout, c'était tellement beau et c'était tellement beau de voir toutes les familles réunies. » Alors aujourd'hui, en la fête de Saint-Pierre, nous devons nous rappeler que le nom prophétique de Pierre, c'est un nom, évidemment, qui a été donné par le Christ lui-même à ce Juif qui s'appelait Simon. Pierre, c'est le roc de foi, n'est-ce pas? Ce sera la première pierre qui soutiendra la chrétienté. Pourquoi la première pierre? Parce qu'il est le premier, hein? Pas non seulement le premier, à mon avis, en importance, mais le premier qui a été appelé, hein, c'est Simon et son frère André, qui étaient de simples pêcheurs de la mer de Galilée. C'étaient des disciples de Jean-Baptiste, ils avaient le cœur droit, tous les deux, une nature vraiment ardente. Hein. Et ils vivaient tous les deux dans l'espérance du Messie. C'étaient des Juifs qui attendaient le Messie, le Sauveur du monde. Et un jour, Jésus est passé, non loin d'eux, ils ont entendu Jean-Baptiste dire « Voici l'agneau de Dieu ». Alors, ils allèrent trouver Jésus. Et Jésus, fixant sur ce juif Simon son regard, prononçait cette parole mystérieuse « Tu es Simon, mais désormais tu t'appelleras Pierre ». Et Simon-Pierre, si on peut l'appeler ainsi, s'est attaché aussitôt à Jésus. Tout de suite, il a senti. Il a répondu, et tout en continuant son métier de pêcheur, c'était un pêcheur dans la mer de Galilée, hein? C'est là qu'est né le christianisme. Et alors, il s'est trouvé assisté, quelque temps plus tard, au fameux repas des noces de Cana, hein? Il a vu le premier miracle de Jésus, cette première révélation de sa divinité. Quelques mois plus tard, Pierre et André lavaient leurs filets sur les bords du lac, et Jésus monta dans la barque. Il a enseigné le peuple qui venait en foule, puis il a dit à Pierre, qui avait travaillé toute la nuit sans rien prendre, « Avance, Pierre, avance en pleine mer et jette le filet. » Alors Pierre a obéi, ah si nous obéissions comme lui, hein, et la quantité de poissons qu'il a ramené était si grande que le filet faillit se rompre. Et alors, le cœur bouleversé de devant ce prodige, Saint-Pierre est tombé aux pieds de Jésus, et se sentant indigne de l'approcher, il a dit, « Retirez-vous de moi, je suis qu'un homme pécheur. » Alors Jésus lui dit, « Ne crains point, désormais, vous serez des pêcheurs d'hommes. » Ainsi, de même qu'ils avaient pris une multitude de poissons dans leurs filets, ils attiraient les âmes, et dès lors, ils ont tout quitté. Leur famille, les bateaux qui les faisaient vivre, et ils ont suivi Jésus. Et quand Jésus choisira les 12 apôtres, il va nommer Pierre avant tous les autres. C'est là qu'il est le premier. Et au début d'avril, après le miracle de la multiplication des pains, la fameuse multiplication des pains, inutile de vous la raconter, tout le monde connaît ça, mais Jésus avait ordonné à ses apôtres de traverser le lac. Là, le vent était contraire, ils avançaient laborieusement. Lorsqu'ils ont vu tout à coup Jésus venir vers eux, il marchait sur les flots, et alors, ils étaient troublés, ils ont cru que c'était un fantôme, puis là, ils se sont mis à crier. Mais Jésus leur a dit cette parole extraordinaire, « Rassurez-vous, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Est-ce que ça vous rappelle pas la belle parole de notre pape Jean-Paul II lorsqu'il fut élu? J'étais sur la place Saint-Pierre ce jour-là, au mois d'octobre 1978. Je venais de terminer un film que j'avais travaillé pendant des années, je terminais le tournage d'un film sur le Saint-Suaire de Turin. Et je m'étais rendu auprès d'un grand ami à moi, le père Louis Lerandeau, ami d'enfance, qui était secrétaire du père Aroupé, le général des Jésuites. Il m'avait hébergé chez les Jésuites à Rome, ce qui m'avait permis de faire un bon séjour à Rome et d'assister ainsi à l'élection du pape, si on peut dire assister à l'élection, en ce sens que j'étais sur la place quand j'ai vu la fumée blanche et j'ai vu le pape Jean-Paul II. Quand on a annoncé son nom, Karol Wojtyła, il y avait des dames italiennes couvertes de voiles noires derrière moi qui disaient « Amen, Nero !» Mais c'est un noir, il n'en voulait pas. C'était un noir, les pauvres femmes, qu'elles n'avaient pas de sens commun. Qu'est-ce que ça peut faire que l'évêque de Rome soit noir, blanc ou jaune, hein? Et alors, ces pauvres femmes étaient toutes enchantées quand elles ont entendu ce pape qui parlait parfaitement italien et qui a dit « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur !» Et aussitôt, Pierre, dans un élan, c'est écrié, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui a dit, « Viens. » Si nous écoutions la parole de Jésus qui s'adresse toujours à nous, « Viens, à chacun d'entre nous, nous n'aurions pas peur d'aller sur les eaux, n'importe où. » Et Pierre s'est élancé, lui, sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais il y a eu un mouvement de doute parce que le vent soufflait plus fort. Il a commencé à enfoncer, puis il a dit, « Seigneur, sauve-moi. » Et c'est le cri qui doit jaillir de nos lèvres aussi quand nous nous sentons couler. « Seigneur, sauve-moi !» Et Jésus a étendu la main. Il l'a saisi. Il lui reprocha d'avoir douté, mais il l'a soutenu sur la mer. Et le lendemain, Jésus abordait pour la première fois le mystère de l'Eucharistie. C'est extrêmement important, ce chapitre 6 de Saint Jean. Le mystère de l'Eucharistie, puis les disciples se sont éloignés. Alors il a demandé à ses apôtres ce jour-là si eux aussi allaient le quitter. Mais Saint-Pierre avait dit cette parole mémorable, une des plus belles paroles des Saintes Écritures. « À qui irions-nous, Seigneur? Vous avez les paroles de la vie éternelle. » Parce que quand Jésus a parlé de l'Eucharistie, beaucoup de gens se sont enfuis. Il y en a aujourd'hui qui fuient devant ces paroles étranges. Et pensons à certains de nos frères chrétiens dans d'autres églises qui ne croient pas comme nous, comme les catholiques, comme les orthodoxes, et comme certaines grandes églises protestantes, ou comme les anglicans, qui en général croient à la présence réelle. Eh bien, il y a même maintenant au sein de notre église des gens qui ont de la difficulté avec ça. C'est dit dans le chapitre 6, les Juifs, et c'est compréhensible que les Juifs s'indignaient contre Jésus parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Et on disait « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph? Nous connaissons son père et sa mère, comment peut-il maintenant dire maintenant qu'il est descendu du ciel ?» Et Jésus leur répondit « Cessez de vous indigner entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ramènerai de la mort à la vie, de la mort à la vie au dernier jour. » Et il affirme des choses absolument merveilleuses. Hein? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger du pain venu du ciel. Et Jésus leur répondit, je vous le déclare, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné du pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain que Dieu donne, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Et cette application doit se poser en grande partie non seulement à sa parole, qui est une parole de vie et du pain pour nous nourrir, mais aussi à l'Eucharistie, c'est-à-dire à l'hostie sainte qui devient son corps ressuscité. Et alors, Un an plus tard, après les événements où Saint-Pierre dit à Jésus « À qui irions-nous, Seigneur, vous avez les paroles de la vie éternelle », eh bien Jésus a posé à ses apôtres l'interrogation suprême. « Vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre a lancé une attestation de foi qui est mémorable et qui est répétée depuis 2000 ans. « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus a répondu en le déclarant bienheureux, hein, il a dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est un texte très discuté. On le discute, on le dispute depuis longtemps. Ce fameux verset, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Au cours des 5 premiers siècles du christianisme, parmi les grands écrivains, les évêques, les théologiens, les grands spirituels qu'on appelle les pères de l'Église, eh bien, on trouve des interprétations très variées de cette phrase. Pour certains, la pierre sur laquelle sera édifiée l'Église, bien, c'est la foi. Pour d'autres, c'est l'affirmation par Pierre de la divinité de Jésus. Hein? Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pour d'autres, enfin, c'est Pierre considéré comme le premier croyant ou comme la figure de toute l'Église. Alors, ces différentes lectures se mêlent souvent. Des papes ont commencé à se référer à ce passage de Matthieu lorsqu'ils évoquent les prérogatives de leur fonction de pape. Hein? Mais en dehors d'eux, les pères de l'Église ne voient pas dans la formule « Tu es Pierre » une affirmation qui est relative là, vraiment aux structures de l'Église comme nous, catholiques romains, nous l'entendons aujourd'hui. Alors, il faut être très prudent dans nos affirmations et savoir respecter l'opinion divergente des autres chrétiens, non pas parce que nous considérons qu'ils ont raison, mais parce que c'est une opinion qui est respectable en soi, n'est-ce pas? Même si moi, personnellement, je ne la partage pas, je crois que Pierre est celui sur lequel l'Église est fondée. D'ailleurs, il y a un phénomène assez étonnant, c'est que sous Pie XII, on a fait des recherches très poussées sur les reliques de Pierre et sur le tombeau de Pierre. Et je vous en parlerai tout à l'heure parce que le tombeau de Pierre est vraiment situé exactement en dessous de l'autel de la chaire de Saint-Pierre, l'autel de Saint-Pierre de Rome, où le pape célèbre toujours l'Eucharistie solennelle à l'intérieur de la basilique. Donc, si lorsque les pères de l'Église, les premiers écrivains sacrés des premiers siècles, lisaient ce texte de Saint Matthieu, qui est très important pour nous, catholiques romains, catholiques réunis dans la grande Église catholique, qui comprend, je vous le rappelle, une 20aine d'églises, hein, nous sommes des chrétiens unis déjà, hein, préfiguration de la grande union que nous espérons qui s'accomplira sous l'action de l'Esprit-Saint un jour. Et alors, quand les pères lisaient ce texte de Saint Matthieu, bien, ils pensaient à la foi de Pierre, au don de Dieu dans le Christ et non pas à la constitution interne de l'Église. Et ce n'est que plus tard, là, quand on envisagera l'Église comme une société organisée puis structurée, qu'on verra dans Matthieu, chapitre 16, verset 18, l'annonce du pouvoir conféré à Pierre et à ses successeurs. À mon avis, comme catholique, moi, je crois que cette interprétation est tout à fait valable. Elle est dans le signe d'une tradition sous-jacente, d'une tradition vivante qui a jailli tout à coup comme une fleur après quelque temps. Et pourquoi pas, l'Esprit-Saint agit et éclaire le sens des paroles, éclaire les textes et fait jaillir des vérités qui ne sont pas saisies dès le point de départ. Quand Jésus annonce sa passion, il a entendu Pierre qui s'est récrié, hein, qui a protesté. Et Jésus nomme Pierre Satan en lui disant, « Éloigne-toi de moi. » Il lui dit que ses pensées, les pensées du premier pape, quoi, n'étaient pas de Dieu, mais des hommes. Pauvre Pierre, qui était un humble pécheur, hein, et un pécheur aussi dans un certain sens. Mais quel homme attachant, hein, quel homme merveilleux. C'est tellement beau. Il y a eu la résurrection de la fille de Jaïr aussi à laquelle Pierre a assisté. Puis il y a eu la grande transfiguration. Pierre a vu le visage de Jésus resplendir comme le soleil, ainsi dans les évangiles. Il a vu ce visage de Jésus qui nous est donné à nous. Moi, je le crois, je vous ai dit que j'ai fait un film sur le Saint-Suaire de Turin, qui a fait le tour du monde, a été présenté dans de très nombreux pays. On calcule qu'il a été vu par peut-être 100 millions de personnes. Et c'est formidable, les moyens de communication aujourd'hui, c'est incroyable. Et alors, le visage de Jésus nous est donné à nous aujourd'hui grâce à la photographie depuis 1898, mais c'est pas le visage resplendissant de soleil, mais c'est le visage d'un mort qui a souffert par amour. Et alors, il a vu non seulement le visage de Jésus qui resplendissait comme le soleil, mais il a vu ses vêtements devenir comme de la lumière. Puis, il s'entretenait avec Moïse et Élie, et Pierre a voulu faire, on se souvient, trois tentes. C'est un peu sympathique, c'est un peu naïf au fond. Mais une nuée les a couverts, et puis une voix s'est fait entendre qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Il n'y eut plus que Jésus seul. Et lorsque vint, vous vous souvenez aussi de l'histoire du jeune homme riche, il est venu un jeune homme riche, qui n'a pas eu le courage de répondre à l'appel de Jésus. Il s'en est allé, et Pierre, au cœur ardent, s'est écrié, « Pour nous, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » C'est l'affirmation sympathique de ce bon Pierre qui dit, « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Il est fier de lui-même, simplement, et c'est sympathique, j'aime bien ça. Il sentait bien qu'il n'y avait que cela qui compte. Tout quitter pour suivre Jésus. C'est pas nécessaire de tout quitter dans le sens qu'on doit vendre une usine qui nous appartient, ou la maison dans laquelle on vit avec sa famille, sa femme, ses enfants, etc. C'est pas ça, c'est tout quitter au fond de son cœur, c'est-à-dire être prêt à ce que tout disparaisse. Ne pas être attaché aussi. Et suivre au fond de son cœur Jésus pour l'imiter dans les charges qui nous incombent, que ce soit père de famille, mère de famille, célibataire ou quoi, dans le monde comme laïc, nous pouvons suivre le Christ aussi. Mais ceux qui suivent les conseils, c'est encore préférable peut-être, car ils peuvent arriver plus rapidement à se libérer d'eux-mêmes, à condition qu'ils soient bien observants de leurs vœux et de leur engagement et de leurs promesses, ce qui n'est pas si facile. Et au soir du jeudi saint, Jésus a envoyé Pierre et Jean pour préparer la Pâque. C'est Pierre qui l'avait envoyé, Jean. Et il a mis le comble à son amour en lavant les pieds de ses disciples. Il faudrait un jour se pencher sur cette question, parce que c'est vraiment un drôle de geste, un geste qu'on ne comprend pas toujours, nous, des Occidentaux. Mais c'est un geste extrêmement important que pour Jésus de laver les pieds de ses apôtres. C'est un geste d'humilité, mais un geste d'amour. Et là encore, Pierre s'est récrié une autre fois. Jésus lui dit qu'il comprendrait plus tard, qu'il leur donnait l'exemple pour qu'ils fassent ainsi eux-mêmes. L'humilité, qui est toujours la vertu fondamentale des saints. Là, il y a le drame de la passion qui a commencé. Et au cours du repas, vous vous souvenez, Jésus annonce qu'il sera livré à ses ennemis, abandonné de ses disciples. Et Pierre, qui n'est qu'un élan d'amour, c'est un être entier, qui crie, « Je donnerai ma vie pour toi !» Et Jésus a répondu, « en vérité, Pierre, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié trois fois. » Et Pierre a suivi son maître au jardin de la douleur et à Gethsémani. Puis quand les Juifs se sont saisis de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré son épée. Puis il a frappé un soldat. On a donné à ce soldat le nom de Malchus. Mais Jésus lui a dit de remettre l'épée au fourreau et qu'il devait boire le calice que le Père lui avait préparé. Moi, l'histoire de Malchus et de ce soldat qui se fait couper l'oreille me rappelle des vieux souvenirs. Je vous les raconte. C'est amusant. En 1942, à l'Ermitage à Montréal, sur Côte-des-Neiges, au nord de Sherbrooke, c'est une salle qui appartient au Collège de Montréal, eh bien, on avait donné durant la Semaine Sainte la Passion selon saint Matthieu de Bach. Imaginez, dans cette petite salle, c'est Wilfrid Pelletier qui dirigeait. Il me semble que c'est sa femme, Rose Bampton, qui chantait. En tout cas, on l'a donné 5 fois de suite dans la semaine. Imaginez, c'était incroyable. Et puis, j'étais pas très âgé, j'avais 15-16 ans. Et je jouais, moi, le rôle de Malchus. C'est moi, Saint-Pierre me coupait l'oreille. Je me suis fait donc couper l'oreille 5 fois. J'étais ce qu'on appelle un figurant. Oh, j'étais élève au collège et ça nous amusait, on faisait ça et on était payé $2 par représentation. Et alors, bon, ben, revenons donc à Saint-Pierre. Le lendemain, c'est de loin, hein, que Pierre suit Jésus chez Caïphe. Et 3 fois, là, la servante lui demande, « Toi aussi, tu étais avec cet homme de Galilée. » Puis 3 fois, il renie. Hein. Ils font en larmes. Ils pleurent sur ses péchés. Et le sauveur, Jésus, qui a souffert sa passion et sa mort, et ses apôtres pêchaient dans la mer de Galilée lorsqu'il leur est apparu. Il leur a dit, « C'est le Seigneur. » Et d'un trait, là, Pierre a cru. Il s'est saint, puis il s'est jeté à l'eau. Et dans sa hâte d'être près de son maître, Jésus lui a demandé par 3 fois, « M'aimes-tu ? » Et Pierre a répondu, « Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. Faisons donc cette parole nôtre. Hein. Jésus, tu connais toutes choses. Tu sais bien que je veux t'aimer. » Pierre lui pouvait dire, « Tu sais bien que je t'aime. » Mais cette triple affirmation de son amour, mais ça a effacé son triple reniement. Hein. Et Jésus a prononcé les mots tendres et souverains, des beaux mots, là, quand il lui confie son Église en disant, « Paix mes brebis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Et disant cela, il annonçait par quel martyr, n'est-ce pas? Pierre allait mourir et Pierre a pris la direction de la petite communauté, de la nouvelle église, et puis le premier de tous les disciples après la Pentecôte, il annonce l'évangile, la résurrection de Jésus qui a été crucifié, en disant « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, comme c'est important d'être confiant que le Saint-Esprit habite en nous. » Soyons donc fiers et confiants. Et comme un grand coup de filet, mais son discours, savez-vous, a converti 3 000 juifs, 3 000 de ses corréligionnaires. Ce sont ces juifs les premiers chrétiens. Nous devons aux juifs notre foi. Et ses prédications se sont poursuivies et Dieu a multiplié les prodiges pour son apôtre. Et puis, oh, mon Dieu, même son ombre rendait la santé aux infirmes. Alors, quand il a été traduit en justice, il a dit « Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes », puis il a été battu de verge. Là, il a parcouru les contrées en prêchant, il a gagné l'Italie, s'est établi à Rome, il a organisé la communauté chrétienne, puis là, Rome, la capitale de l'idolâtrie, va devenir la capitale du monde chrétien. C'est un peu le contraire de Montréal, c'était la capitale un peu de notre monde chrétien, qui est devenue un peu pas mal une capitale de l'idolâtrie, Montréal, Ville-Marie. Et l'Évangile a fait des progrès extraordinaires, et Néron, le fameux Néron, l'empereur, qui a fait des persécutions épouvantables, eh bien, sous Néron, en l'an 64, il a été condamné à mourir en croix. Et selon Origène, eh bien, l'apôtre Pierre aurait demandé d'être crucifié la tête en bas, se jugeant indigne de mourir, de la même manière que Jésus. Avant de vous parler de Saint Paul, je voudrais signaler que c'est aujourd'hui aussi la fête de Sainte Emma. Ma marraine s'appelait Emma, la sœur de ma mère. C'était une veuve, une comtesse qui a vécu au 11e siècle. Elle est morte en 1045. Donc, la fête de Sainte Emma aujourd'hui, c'est le diminutif évidemment de Emmanuel. Et c'est aussi la fête de Saint-Martial. Il y a des gens qui s'appellent Martial au Québec. J'en ai déjà rencontré. Il était évêque de Limoges au 3e siècle. Saint-Bertrand aussi, qui était évêque du Mans en France, qui est mort en 623. Saint-Thibault, il y a de plus en plus de gens qui s'appellent Thibault. Hein. Prêtre et ermite, qui est mort en 1006. Et enfin, le bienheureux Powell, un bénédictin qui a été martyrisé en Angleterre en 1646. Et alors, donc, nous passons à Saint Paul. Saint Paul, que l'on appelle l'apôtre des gentils. Donc, nous passons à Saint Paul. Saint Paul, que l'on appelle l'apôtre des gentils. Les gentils, c'est quoi? Ce sont les gens qui ne sont pas des juifs. Ça veut pas dire que les juifs ne sont pas gentils, évidemment. Ce sont simplement des gens qui ne sont pas circoncis, car les juifs étaient circoncis. Et alors, l'histoire de Saint Paul, c'est sans doute la plus étonnante du monde. Quand on lit des vies, c'est absolument fantastique, la vie de Saint Paul. Vous allez voir, hein, vous la connaissez probablement, mais quand on la rappelle, on s'étonne encore à nouveau. C'est un peu comme devant certains contes, certaines chansons. On s'étonne et on s'émerveille. Des films aussi que l'on voit pour la cinquième fois. Et on s'émerveille plus la cinquième fois que la première. Et alors, son rôle à Paul, c'est, comme on dit, incommensurable. Il a mené, lui, les païens, c'est-à-dire les gentils, au Christ. Il est né à Tarse. Oh, c'est dans le sud, disons, de la Turquie d'aujourd'hui. C'est au nord de Chypre, hein? L'île de Chypre, là, mais si on quitte l'île de Chypre, on va sur la terre ferme, on arrive à Tarse. C'était le fils d'un pharisien qui était citoyen romain. Et Paul, qui s'appelait Saul en juif, en hébreu ou en langue juive, hein, a reçu une éducation très, très soignée, une éducation de juif, une éducation juive, puis une éducation grecque. Il a étudié à Jérusalem. C'était un disciple brûlant, hein, de la loi juive. Il y avait un zèle profond pour cette loi qui est très importante pour les juifs, car en observant cette loi, les juifs sont convaincus, et très sincèrement convaincus, de plaire à Dieu. Alors, ce Saul ou Paul n'aimait pas les chrétiens, parce que pour lui, c'était des juifs qui séparaient la nation juive, qui était hérétique, quoi, qui était des sectaires. Et puis, il vraiment détestait les chrétiens, il était exaspéré par cette propagande d'une nouvelle secte, et puis il s'est mis à la tête des persécuteurs contre les chrétiens. Il a assisté au supplice de ce premier martyr, Saint Étienne. Vous savez, l'histoire de Saint Étienne, hein? C'est Paul qui a gardé les manteaux de ceux qui l'ont lapidé, des lanceurs de pierres. Après avoir ravagé les églises de Jérusalem, eh bien, Saul a pris la route de Damas pour y arrêter, justement, les premiers chrétiens, les disciples du Christ qui habitaient là, pour les ramener enchaînés à Jérusalem. Mais soudain, une lumière plus éblouissante que le soleil l'a précipité, dit-on, à bas de son cheval. Il l'a rendu aveugle, puis s'est entendu une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il a répondu, d'après le livre des Actes des Apôtres, hein, écrit par Saint-Luc, « Qui êtes-vous? Vous qui me parlez? » Et la réponse est venue tout simplement, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et alors Saul, tremblant, a demandé, « Seigneur, que voulez-vous que je fasse? » Écoutez bien ce que Jésus lui a dit, c'est très beau. « Lève-toi. » Soyons donc debout, hein. « Lève-toi. » « Entre dans la ville, on te dira ce qu'il faut que tu fasses. Car je t'envoie maintenant vers les païens, afin qu'ils se convertissent des ténèbres à la lumière, et que par la foi qu'ils auront en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés. » Recevoir le pardon de ses péchés, c'est quoi? C'est se libérer d'un poids, se sentir tout à coup comme un oiseau qui vole. Je me souviens de mon fils que j'avais envoyé à la confesse chez les pères du Très-Saint-Sacrement, près du métro Mont-Royal. Je lui avais dit, tu devrais aller là. La lumière est allumée au-dessus du confessionnal. En sortant, il est venu vers moi et dit, t'as donc raison, papa. Je me sens comme un oiseau. C'est vrai. Alors, Saul entre donc à Damas, comme lui a demandé Jésus, non plus en triomphateur, pour venir chercher des chrétiens et pour les mettre à mort au besoin, mais en infirme, en aveugle, qu'il faut conduire par la main. Et c'est alors que sa vie prodigieuse va commencer. Un chrétien de Damas, qui s'appelle Ananie, et qui est averti miraculeusement, nous rapporte les textes, est venu le guérir, il lui redonne la vue, puis il lui enseigne les vérités de la foi, et Saul reçoit donc le baptême. Il va convertir le monde. Il annonce à Damas que Jésus est le Fils de Dieu. Alors là, les Juifs comprennent plus rien. Ils s'interrogent, ils se demandent, mais c'est pas lui qui persécutait les disciples de Jésus et qui venait pour les amener prisonniers. Alors, seul pour éviter la rage de ces anciens coreligionnaires, c'est bien normal qu'ils soient fâchés, ces juifs. Il ne faut pas leur en vouloir, c'est bien compréhensible. Alors, il sent le besoin de se recueillir et il s'est rendu, dit le texte, en Arabie, où est né l'islam 600 ans plus tard. Il va là pour passer un temps de solitude et de silence avant d'évangéliser. On trouve ça souvent chez les grands prédicateurs, le besoin de silence, de solitude. Pensez à l'abbé Guy Gilbert, cet apôtre auprès des jeunes motards et des jeunes délinquants de Paris. Chaque semaine, il part sur sa moto, il s'en va à Avon, près de Fontainebleau, où j'ai déjà fait une retraite d'une semaine, chez les Carmes d'Avon. J'étais seul dans ce couvent merveilleux, au bout du grand parc du château de Fontainebleau. Il y a les Carmes, là. Et puis, l'abbé Guy Gilbert va faire sa retraite d'un jour ou deux, chaque semaine, car il lui faut sa solitude et son silence pour continuer son travail, me disait-il. Alors, il est revenu à Damas, notre ami Saul, ou Paul, si vous préférez. Il y a un complot qui se forme et on veut tuer ce Saul qui, soudain, se dresse comme une preuve de la divinité du Christ. Et pour l'avoir plus sûrement, bien, les Juifs font fermer les portes de la ville et Saul l'apprend. Alors, il se fait descendre en secret dans une corbeille du haut des remparts. C'est pas bête, hein? Alors là, il se rend à Jérusalem pour consulter les chefs. Qui sont les chefs? Dit le texte. Pierre et Jacques le mineur. Mais, de nouveau, il a entendu la voix du Seigneur Jésus qui lui dit « Dépêche-toi, sors de Jérusalem, parce qu'on n'acceptera pas ton témoignage. Ton témoignage sur moi ne sera pas reçu par les Juifs. Va, parce que c'est aux nations, au loin que moi je t'enverrai. » Alors voilà, c'est l'ouverture de la révélation que Jésus a faite, l'ouverture qui se fait sur le monde entier, qui quitte le peuple juif, pour s'étendre à tous les hommes et toutes les femmes de la planète. Saul part donc pour Tarse, sa ville natale, où il n'a pas été bien accueilli. Il prêche là, dans ce petit pays qu'on appelle la Cilicie, dans la Turquie d'aujourd'hui. Et Barnabé, vous vous souvenez, j'en ai parlé l'autre jour, vient le chercher pour prêcher à Antioche, dans la région là-bas, qui déjà connaît le Christ. Et un an plus tard, il lui arrive quelque chose d'extraordinaire à Paul. Une extase qui le mène, dit-il, au plus haut degré de la vie mystique. Il est ravi, dit-il, au troisième ciel. Il entend des paroles qu'un mortel ne saurait redire, dit-il. Et il voit ce que les yeux humains n'ont jamais vu. La force, l'amour, la lumière l'inonde. Et c'est comme chez Thérèse d'Avila. C'est comme chez Saint Jean de la Croix. C'est comme quantité de très grands mystiques dans l'histoire de l'Église. Et à Antioche, où on a commencé à appeler les chrétiens, des chrétiens, c'était comme un sobriquet, un surnom. Eh bien, Saul est chargé avec Barnabé de porter à Jérusalem le montant d'une collecte pour secourir une famine. Il y avait une famille. Et alors, l'apôtre des peuples qui ne connaissent pas Dieu, là, les gentils, bien, Paul va les évangéliser, puis il va évangéliser la terre, c'est-à-dire ce qu'on connaît alors du monde. Il y a une première mission qui le fait aborder avec Barnabé sur l'île de Chypre, je vous en avais parlé l'autre jour, où il entreprend la conversion du proconsul romain, vous vous souvenez qu'il s'appelait Sergius Paulus ou Serge Paul. C'est alors qu'il latinise en Paul son nom, parce que Saul c'est un nom juif et Paul ça fait latin, et là ça lui sera beaucoup plus utile pour ses relations avec les Grecs, les Romains, parce qu'il veut les convertir. Et puis là, il passe en Asie mineure. Il voyage, c'est pas possible. En une seconde mission, ils font des chrétientés en Macédoine, à Athènes, à Corinthe. Il passe à Éphèse, il revient à Jérusalem et Antioche. Puis dans une troisième tournée, il retourne visiter ses chrétientés. Il fortifie les conversions, il accomplit des miracles. C'est un homme incroyable pour n'être à charge à quiconque, cependant. Puis aussi, pour pouvoir soulager les pauvres, bien, Paul travaille. C'est un prêtre ouvrier, quoi. Il tresse des corbeilles, il tisse des tentes. Il dit, celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Oui, souvent, nos prêtres travaillent beaucoup sans travailler dans des usines. Car un prêtre qui se veut vraiment un vrai prêtre n'arrête pas. Ils sont dévorés, les vrais prêtres. Paul reste fidèle aux chrétientés qu'il fonde. Il leur envoie par des messagers, des lettres, des épîtres, qui demeureront les plus pures sources d'enseignement de l'Église. Là, les Juifs poursuivaient l'apôtre Paul de leur haine, c'est bien compréhensible. Les Juifs voient tout à coup des Juifs se convertir à cette nouvelle religion, ça les agace. Alors ils cherchaient à le tuer. Alors à Iconium, il échappe à la lapidation en s'enfuyant. À Lystre, il guérit un boiteux. Il se voit honoré comme un dieu, je vous en avais parlé l'autre jour. Hein? Humblement, il détrompe le peuple qui, bien découragé, dans un revirement tout à fait subit, l'ont assailli de pierres, lui ont garroché, comme on dit, des pierres. Alors là, les chrétiens l'emportent à demi-mort. Il est sauvé. À Philippe, en Macédoine, une esclave qui gagnait comme devineresse, une espèce de Jojo Savard, hein, gagnait de l'argent pour ses maîtres, eh bien, Paul la délivre du démon. Je ne sais pas comment est Jojo Savard, mais je m'inquiète à son sujet des fois. Mais alors, les maîtres rapaces le font traîner avec son compagnon Sylvestre devant les magistrats. Là, ils sont frappés de verges, ils sont jetés au cachot, les fers aux pieds, puis au milieu de leur souffrance, ben, ils entendent des cantiques. Et soudain, ben là, les murs s'ébranlent, puis les fers de nos prisonniers là, se rompent. Alors là, le geôlier est épouvanté de voir libre ceux dont il avait la garde. Il a peur de perdre son job, comme on dit, s'il s'évade. Hein? Alors, il veut se percer de son épée, me suicider, quoi. Mais Paul le rassure et dit « Ne crains rien, nous sommes tous ici. » Et le geôlier est émerveillé à la fois du prodige puis de cette loyauté. Et au lieu de se réjouir de ne pas perdre son job, comme on dit, il se fait baptiser avec sa famille. Et à Athènes, lui, là, c'est la capitale de l'idolâtrie grecque. Hein? Athènes, la grande ville d'Athènes. C'est beau, Athènes. Un peu lugubre par certains points, mais fascinant. Et là, devant l'Aréopage, le tribunal, qui est le plus renommé, là, Paul annonce quel est le dieu inconnu, parce qu'il y a un temple au dieu inconnu là-bas, quel est le dieu inconnu auquel les Athéniens ont élevé un autel sans le connaître. Eh bien, il leur dit qui c'est. Et Denis, l'Aréopagite de l'Aréopage, là, se fait son disciple. Tellement de conversions qu'il accomplit. À Corinthe, qui est très mal famée, la ville de Corinthe, ben là, les Juifs ont répondu par des blasphèmes. Des blasphèmes, entendons-nous. Ils n'ont pas l'intention de blasphémer. Ils, au contraire, ils veulent défendre leur foi. Et alors, il allait repartir le cœur lourd de tristesse quand une voix le console. Il entend « Parle toujours et ne crains rien, je suis avec toi. » Je voudrais redire ça à tous les prêtres qui doivent prêcher, c'est leur charge. Parle, parle toujours, ne crains pas, ne crains rien. Je suis avec toi. Souvent, on assiste à des messes et le prêtre n'ose pas prendre la parole. Ah, Seigneur Dieu. Et voilà que ce sont les païens qui l'acclament. Et ils fondent parmi eux une nouvelle église. Et là, à Éphèse, la population qui a voulu le livrer aux bêtes féroces de l'amphithéâtre manque son coup. À Troade, il prêchait dans une salle du troisième étage, là, puis un garçon qui est assis sur la fenêtre tombe dans la rue et Paul l'a ressuscité. À Jérusalem, enfin, les Juifs ont voulu le mettre à mort. Il est conduit dans une forteresse et il reste 2 ans prisonnier à Césarée. Puis, il est amené à Rome pour y être jugé comme citoyen romain. Il manque de périr en mer. La tempête le fait échouer sur les côtes de l'île de Malte, au sud de l'Espagne. Il opère des miracles et des conversions. À Rome, il est gardé 2 années dans une chambre où il convertit des Juifs et des païens, des gentils. Il a rendu à la liberté. Paul entreprend de nouveaux voyages. Il donnerait 1000 vies, Paul, s'il les avait pour sauver une seule. Il est extraordinaire. Sa vie inouïe. Il allait la terminer en l'an 65, on croit que Saint-Pierre est mort en l'an 64, crucifié la tête en bas, comme je vous ai dit tout à l'heure, et l'année suivante, donc en l'an 65, il est pris lui aussi dans la persécution de Néron. Et selon la loi romaine, bien avant d'avoir la tête tranchée, il a dû subir le supplice de la flagellation. Et peu avant de mourir, eh bien, Paul, Saint-Paul, écrivait à son disciple Timothée, dans une lettre suprême, il écrit « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, il ne me reste plus qu'à recevoir du Seigneur la couronne de justice. J'aimerais vous lire un beau texte de Saint Jean Chrysostome au sujet de Saint Paul. Saint Jean Chrysostome, qui est un des plus grands pères de l'Église grecque, en ce jour où le pape de Rome rencontre le patriarche de Constantinople, pourquoi ne pas écouter Saint Jean Chrysostome? Chrysostome à la bouche d'or. Hein? Il écrit sur Saint Paul des lignes absolument admirables. Tout à coup, le feu de l'amour s'est mis à brûler dans le cœur de l'apôtre Paul. Alors, on eût dit qu'il voulait, à tout prix, réparer le passé. Il s'est jeté au plus fort de la mêlée, là où le combat présentait le plus de fatigue, de danger et de peine. À présent, cet homme impétueux et emporté par sa fougue était devenu la docilité, la douceur même, si bien que, dans la plus grande ardeur de son zèle, il ne s'est jamais heurté à ceux qui, comme lui, avaient le droit d'enseigner l'Évangile. On le voyait plein d'enthousiasme en sa foi, et à ce moment-là, on lui conseillait de se retirer un temps à Tarse ou à Césarée. Et lui, Paul, y consentait. Uniquement soucieux du bien-être des fidèles, ne respirant plus que la paix, toujours prêt à prêcher le Christ, il consentait à tout. Plus tard, quand il enverra son neveu avertir le tribun romain pour se soustraire au danger, quand il en appellera même à César et qu'il s'empressera de se rendre à Rome, ne voyez pas là un manque de courage. Comme celui qui gémissait chaque jour des nécessités de la vie présente, n'aurait-il pas préféré de rejoindre le Christ? Quel était le motif de sa conduite? C'était de pouvoir annoncer plus longtemps l'Évangile, de pouvoir amener avec lui au Christ une foule d'hommes et de femmes à son départ. « Il est plus utile pour votre bien, disait-il, que je reste encore en cette vie. » C'est dans l'Épître aux Philippiens. De là, cette patience admirable dont il fit preuve, en se laissant enchaîner et amener avec tant d'autres prisonniers. Il ne rougit pas de partager leurs chaînes. Il prit grand soin de tous au cours de leur traversée. Certes, il était plein de confiance pour lui-même. Il savait bien qu'il était en sûreté. Il fit ce voyage avec autant de joie que s'il fût allé prendre possession d'un empire. En effet, ce n'était pas une récompense banale qui l'attendait, c'était la conversion de Rome. Arrivé là, quelle douceur en ses entretiens, quelle liberté de langage pour fermer la bouche aux incrédules. Tous leurs efforts n'ont réussi qu'à assurer à l'apôtre Paul, par sa mort même, une gloire inexprimable. C'était un texte de Saint Jean Chrysostome. Et avant de terminer, j'aimerais bien vous lire aussi encore un autre texte, mais cette fois-ci de Saint Paul. C'est le texte fondamental que l'on connaît tous, mais c'est un jour où il faut l'écouter, je crois, en cette fête de Saint Paul et de Saint Pierre. Il dit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, « Je pourrais être capable de parler les langues des hommes et celles des anges, mais si je n'ai pas l'amour, mes discours ne sont rien de plus qu'un tambour bruyant ou qu'une cloche qui résonne. Je pourrais avoir le don de transmettre des messages reçus de Dieu, je pourrais posséder toute la connaissance et comprendre tous les secrets, je pourrais avoir toute la foi nécessaire pour déplacer des montagnes, mais si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens et même livrer mon corps pour être brûlé. Mais si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. L'amour est bon. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Il n'est pas orgueilleux. L'amour ne fait rien de honteux. Il n'est pas égoïste, il ne s'irrite pas, il n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, mais il se réjouit de la vérité. L'amour permet de tout supporter. Il nous fait garder en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel. Les messages reçus de Dieu cesseront un jour. Le don de parler en des langues inconnues prendra fin. La connaissance disparaîtra. En effet, nous ne connaissons qu'incomplètement et nous ne donnons qu'incomplètement les messages divins. Mais quand ce qui est parfait viendra, ce qui est incomplet disparaîtra. En somme, ce que saint Paul veut dire, c'est que seule la charité est éternelle, car quand le monde aura disparu, quand le temps aura disparu, quand toute la création sera réduite à néant, seule la charité persistera, car je l'espère, nous serons des saints au ciel, avec les saints, Pierre et Paul et tous les autres saints, et nous serons dans l'amour pour toujours, pour toujours. Je lisais ces jours-ci, puisque Cioran vient de mourir, ce grand auteur athée, très grand auteur athée, que j'ai lu toujours avec beaucoup d'angoisse, car c'était un écrivain roumain comme Ionesco, que j'ai déjà interviewé. Et Cioran, je l'avais rencontré au Jardin du Luxembourg à Paris. Il m'avait bien impressionné par son désespoir. Il écrit dans ce beau livre, Le mauvais démiurge, à la fin, il écrit, « Il n'est de vraie solitude que là où l'on songe à l'urgence d'une prière. » Si nous, chrétiens, comprenions ça, il n'est de vraie solitude que là où l'on songe à l'urgence d'une prière. Et sa parole terrible qui termine ce livre, « Nous sommes tous au fond d'un enfer dont chaque instant est un miracle. » Curieux, hein, de la part d'un athée. Ça tourne finalement que c'est une belle parole. « Nous sommes tous au fond d'un enfer dont chaque instant est un miracle. » J'espère que vous comprenez ce que je veux dire en citant ces textes curieux de Cioran. Je l'appelle son nom au cas où vous ne le connaîtriez pas, C-I-O-R-A-N, qui est mort tout récemment. Et ayons une pensée pour cet homme qui ne croyait pas en Dieu et en l'éternité, afin que Dieu le reçoive, car au fond de lui-même, je crois qu'il était sincère.